Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Mathilde Wagman, Denis Ramon, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Adèle Van Rett. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Olivier Guérin. Avec à la prise de son aujourd'hui, Pierrick Monsigné. Emmène-moi dans la nouvelle danse d'Afrique. Ça se danse comme ça de partout. Je danse le Mia. Alors on danse. Deuxième temps aujourd'hui de notre danse philosophique, deuxième temps de notre quête d'une philosophie de la danse. Alors que la danse a été délaissée, abandonnée par les grands systèmes métaphysiques, nous avons vu hier qu'elle était peut-être le moyen de dépasser les alternatives classiques dessinées par la philosophie. Plus de corps et d'émotions d'un côté, plus d'esprit et de rationalité de l'autre, mais de la danse. La danse qui unit toutes nos divisions, même les plus enfouies en nous. Et si la danse, pauvre petite exclue des beaux-arts, n'était pas en fait l'art premier, le premier des arts? Avec le chant, la danse, l'art de remuer ses bras et ses jambes en rythme nous semble en effet le plus naturel, le plus spontané. Mais c'est aussi l'art premier, le premier des arts, parce que c'est la danse qu'on retrouve au fondement de toute création artistique ou intellectuelle. Entre l'écrivain qui trace ses lettres noires sur la surface blanche, le peintre qui jette ses couleurs sur la toile et le savant qui travaille ses concepts, toujours ce même geste, cette danse de l'artiste avec la matière. La danse ne serait-elle pas alors la meilleure figuration, la meilleure métaphore, la meilleure transfiguration de la création et peut-être alors le meilleur pied de nez à la philosophie? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Guérin.
Danseuse, ô toi, transposition de tout ce qui passe en avance de pas, quelle offrande fut la tienne? Et le tourbillon de la fin, cet arbre de mouvement, ne prit-il pas entière possession de l'année que ton essor conquiert? Ne fleurit-il pas pour que son envol de tout à l'heure l'entourât comme un essaim? Sa cime ne fut-elle pas soudain un silence en fleurs? Et au-dessus de lui, ne fut-elle pas soleil? Ne fut-elle pas été la chaleur, cette chaleur innombrable qui émane de toi? Mais il portait aussi, il portait ton arbre d'extase. Ne sont-ils pas ces fruits paisibles, la cruche encerclée de maturité et le vase plus mûri? Et dans les images, n'est-il pas resté le dessin que le trait sombre de ton sourcil rapidement a tracé sur la paroi entrelacée de ton propre tournoiement?
Eh bien, dans ce cas, nous vous tiendrons informés en temps utile.
Une dernière question, si je puis me permettre, Billy. Qu'est-ce que ça te fait, au juste, lorsque tu danses?
Je sais pas. Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide, mais quand je suis lancée, alors j'oublie tout le reste. C'est comme si je disparaissais. C'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps et une sorte de feu dans tout mon corps. Je suis simplement là. Je vole. Juste comme un oiseau ou comme de l'électricité. De l'électricité.
Je te souhaite un bon retour à la maison.
Bonjour Michel Guérin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, d'une philosophie du geste, parue aux éditions Actes Sud en 2011. Et vous avez également participé à un très beau numéro, le numéro 24 précisément de la revue annuelle La Part de l'œil, paru en 2009 et consacré à ce qui fait danse. Alors Michel Guérin, nous venons d'entendre un extrait du film de Stéphane Stephen Daldry, Billy Elliot, extrait dans lequel le petit Billy, pris de la passion de la danse et qui essaye de rentrer, qui passe un concours pour entrer dans une école de danse, explique au jury ce que ça lui fait de danser. Il dit que c'est comme de l'électricité, c'est comme s'il disparaissait, il s'envole, c'est un oiseau. Et juste avant, nous avons entendu un poème de Rilke, lu par Jean-Louis Jacopin. C'est un extrait de ses sonnets à Orphée qui date de 1922. Un poème dans lequel il évoque les mouvements de la danseuse. Et alors dans les deux cas, dans le film Billy Elliot et dans le sonnet de Rilke, ce qu'on entend c'est l'importance du geste, du mouvement, du corps traversé par une puissance invisible que seule pourrait rendre la danse. Alors paradoxalement cet art si physique, si terrien, la danse, semble aussi être le plus aérien, celui qui rend le mieux la légèreté, l'insaisissable de la création. Qu'en pensez-vous Michel Guérin ?
Oui, la danse, en effet, donne le sentiment de rendre visible l'invisible et nous donne aussi le sentiment presque électrique d'une légèreté tout à fait particulière. Mais en même temps, il y a l'autre côté de la danse, c'est-à-dire que la danse n'est pas seulement légère. Elle est légère parce qu'elle elle fait contraster cette légèreté avec un piétement. Elle a besoin du sol. Elle est aérienne, mais elle est également chtonienne. Et d'ailleurs, c'est cet aspect, je crois, que la danse contemporaine, rompant avec toute la tradition d'un certain ballet académique, a retrouvé, a réinventé peut-être, c'est-à-dire l'archaïsme de la danse. La danse est du ciel, peut-être. D'ailleurs, Rilke dit bien qu'elle a quelque chose qui relève de l'allant ou de l'élan. Le mot allemand, c'est der Schwung, c'est-à-dire une oscillation, une élévation. D'ailleurs, le poème le dit bien, une transposition de tout passé en pas. Et ce passé en pas, c'est tout le mouvement de la danse. Parce que malheureusement, en français, on ne peut pas le rendre facilement. Mais en allemand, c'est Versetzung. Alles vergehen in Gang. Vergehen, ça veut dire, la particule faire est négative, ça veut dire ce qui passe, ce qui chute, ce qui tombe dans le rien. Et gehen, ça veut dire au contraire, aller de l'avant, avancer. Donc la danse est une transposition de tout ce qui va se casser la figure, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, de tout ce qui va tomber. C'est la relève de tout ce qui va tomber. Donc il y a un caractère, si vous voulez, encourageant, un caractère roboratif de la danse. Et c'est la raison pourquoi le rythme premier, peut-être, de la création, et là j'en viens au cœur de votre question, me semble-t-il, le rythme premier de la création, c'est précisément ce renforcement. Nietzsche, d'ailleurs, quand il parle de la danse, parle à chaque fois en termes de kraft, en termes de force. La force et la souplesse. Il faut qu'il y ait dans la création la force et la souplesse. Il faut qu'elle puisse s'induire elle-même. Il faut qu'elle puisse à la fois, comment dirais-je, combiner les déclinaisons, les variations, d'où la souplesse, mais également chercher en quelque sorte une intention. L'intention en art n'est jamais première. Et il n'y a pas plus merveilleusement doué que le pas de la danse pour trouver l'intention. L'intention, au fond, se prouve, j'allais dire en marchant, c'est pas tout à fait ça, en dansant.
Ce qui est paradoxal, c'est que la danse, on l'a vu hier, j'en ai parlé au début, la danse a été délaissée par la philosophie. Or là, elle vient éclairer la genèse même de la création. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a un geste dansé à la base de la création, la danse devient le premier des arts.
Alors oui, en effet, elle tente à devenir, si on en juge par l'intérêt que la philosophie contemporaine lui voue, elle tente à devenir le premier des arts. Mais encore faut-il bien comprendre ce que signifie « premier ». Parce que effectivement, si nous prenons les systèmes des beaux-arts, comme c'est ainsi que ça s'appelle, de la tradition, que ce soit celui de Hegel ou même celui d'Alain dans le système des beaux-arts, même si Alain attache de l'importance
à la danse,
bien sûr, parce que Alain attache de l'importance au corps, à tout ce qui est au corps, à tout ce qui est corps. Tout intellectualiste qu'on le répute, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'était que la religion à travers le corps, par exemple, Alain.
Mais il lie la danse à quelque chose de religieux et on retombe sur la part invisible de la danse.
Exactement. Alors que les traditions plus classiques considèrent qu'au fond, la danse est un art figuratif, comme un peu l'art des jardins, mais à la queue. C'est-à-dire qu'il n'a pas franchement de dignité philosophique. Il n'est pas fait, c'est pas la peinture d'histoire, si vous voulez. Il y a une sorte de hiatus qui sépare les grands genres de la danse, qui finalement, bon, le ballet classique, avec la musique, c'est bien, mais la danse est inféodée à la musique. Elle est une façon de rendre décorative la musique. D'ailleurs, vous savez bien que les ballets, au XVIIe siècle, entrecoupaient les pièces de théâtre. Donc elle était en réalité subalterne, subordonnée par rapport à la musique et par rapport au théâtre.
Mais c'est peut-être ce rapport-là qu'il faut inverser. C'est-à-dire...
Mais il est en train de s'inverser.
En train de s'inverser, c'est-à-dire ne plus faire de la danse, la danse qu'elle soit au service de la musique, mais plutôt l'inverse. Et c'est ce dont on s'aperçoit quand on parle aussi quand je parlais du peintre qui se débat avec la matière. C'est ça aussi le geste dansé à la base de toute création et qui fait que la danse serait premier dans le sens où en fait ce seraient les autres arts qui comment dire, calqueraient, copieraient sa manière de procéder.
Moi j'en suis intimement persuadé, d'ailleurs je l'ai écrit dans plusieurs livres, dont Philosophie du geste, c'est une des thèses à laquelle je suis attaché, soit que la danse est matricielle. C'est-à-dire qu'elle nous fournit en quelque sorte un module premier de l'art. Je crois qu'il y a un danser, j'emploie à dessein le verbe plutôt que le substantif ou la substance, un danser, un acte de danse qui est à l'origine de tout art, quel qu'il soit. Alors comprenons-nous bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher empiriquement de la danse effective dans la peinture, même si on peut citer bien sûr l'exemple de Pollock.
De Pollock, ou même de
bien d'autres.
On a souvent des images en tête de documentaires sur des peintres ou d'extraits de, je pense à l'œuvre de Zola où Claude, par exemple, se débat avec sa toile et on a un extrait où il jette les couleurs sur sa toile. Il y a véritablement une danse, une lutte qui s'instaure entre d'un côté l'artiste et de l'autre la toile.
Alors ça, c'est, je crois, le côté corps de tout art. C'est là où même l'art le plus conceptuel reste précisément de l'art. Parce que l'art conceptuel, ce n'est pas le concept en philosophie, ce n'est pas la même chose. Et ce qui différencie tout cela, je pense en particulier au Land Art, ce qui différencie le concept en art du concept, par exemple, en philosophie ou en science, c'est qu'en art, il y a toujours du corps, il y a toujours du sensible, il y a toujours ce que j'appellerais une exploitation, une fruition de la sensation et du mouvement. Et je dirais même plus exactement encore, une fruition, c'est-à-dire une manière de s'intéresser particulièrement et gratuitement, si je puis dire, à cette alliance de sensations et de mouvements. Quel art peut, à cet égard, être plus exemplaire pour ce qui concerne cette manière de s'attarder dans la perception, comme dit joliment Valérie, que la danse ?
Il y a une autre dimension que la danse est exemplaire du rapport de la transformation de la matière en forme, mais il y a aussi autre chose dont la danse peut être exemplaire, c'est tout le rapport entre le temps et l'espace. Tout à l'heure, vous avez parlé du mouvement en fait qui naît mais qui meurt tout de suite, qui se tue lui-même dès qu'il a lieu, mais c'est aussi
pour rebondir.
Donc il y a aussi ce rapport là spatio-temporel dans la création qui est on va créer quelque chose dans un temps, mais aussi quelque chose qui va donner lieu à autre chose. Et à partir du moment où il va être créé, il va être fini, achevé, tué.
Oui, parce que le corps, comme tout corps dans l'espace, est fini. Mais en même temps, il a en lui des ressources à la fois énergétiques et, quasi-spirituelles, qui, elles, sont infinies. Et c'est précisément le conflit, mais le conflit heuristique, le conflit producteur entre le temps et l'espace, c'est aussi le conflit du fini et de l'infini. Et c'est pour ça que j'ai, dans la philosophie du geste, mais aussi dans l'espace plastique, produit une figure qui est la figure des deux corps du danseur. De même qu'il y a deux corps du roi, il y a un roi qui meurt et puis la royauté, elle, qui ne meurt pas. Et quand le roi meurt, on dit « vive le roi », c'est-à-dire « vive son successeur », parce que la royauté, elle, continue. Et bien de la même façon, dans la danse, il me semble qu'il y a un relais permanent, incessant, qui fait constamment ritournelle ou da capo entre ces deux corps. Il y a un corps qui, finalement, se déplace dans l'espace. Il y a un marché dans la danse. On ne peut pas supprimer le marché de la danse. Parce qu'on ne peut pas, justement, c'était notre propos initial, on ne peut pas faire que la danse soit toute aérienne. Si elle était toute aérienne, elle serait niaise. Elle serait purement, comment dirais-je, elle n'aurait aucune densité. Au contraire, la danse a une densité, elle a un corps, elle est d'un corps. Et donc, il y a un corps qui se déplace, qui marche. C'est le déplacement, c'est la métaphora des Grecs. Mais il y a aussi un autre corps, il y a un corps qui à la limite est invisible, qui jubile, qui ne se tient plus, qui ne se tient plus de joie. Ça aussi, c'est du mouvement. Mais un mouvement qu'on ne voit pas, un mouvement intense et non pas un mouvement extensif, un mouvement dans l'espace, un mouvement dans le temps, un mouvement dans l'instant. Et c'est le relais permanent de ces deux corps du danseur qui fait, à mon sens, tout le mouvement de la danse.
Recommence ?
Quoi ?
Ce que tu viens de faire à l'instant.
Je ne peux pas, je l'ai fait sans y penser. Je ne suis pas une danseuse classique.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je n'ai jamais pris de cours. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des images, mais je n'ai jamais été dans un cours de danse. Quand il y a tous ces danseurs dans une pièce qui s'épient les uns les autres et qui vous regardent.
Oui, mais au club, tu danses devant un public tous les soirs.
Mais c'est pas pareil, je ne vois pas les gens. T'es sur une scène et la musique attaque et tu commences à la sentir. Et puis, tout ton corps se met en mouvement. Je sais que ça a l'air idiot, mais j'ai l'impression que quelque chose se déclenche. Je sens que je décolle et puis d'un seul coup, j'ai le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Il y a des soirs, je peux pas attendre, je suis impatiente d'être sur scène. Rien que pour disparaître.
Le corps dansant semble ignorer le reste, ne rien savoir de tout ce qui l'environne. On dirait qu'il s'écoute et n'écoute que soi, on dirait qu'il ne voit rien, et que les yeux qu'il porte ne sont que des joyaux, de ces bijoux inconnus dont parle Baudelaire, des lueurs qui ne lui servent de rien. C'est donc bien que la danseuse est dans un autre monde, qui n'est plus celui qui se peint de nos regards, mais celui qu'elle tisse de ses pas et construit de ses gestes. Mais dans ce monde-là, il n'y a point de but extérieur aux actes. Il n'y a pas d'objet à saisir, à rejoindre, ou à repousser, ou à fuir. Michel Guérin, on a entendu deux choses. D'abord, un extrait du film bien connu, Flashdance, qui a sûrement fait naître plusieurs vocations de danse, qui date de 1983. Puis on a entendu, un extrait de La philosophie de la danse de Paul Valéry, qui date de 1936. Et ce qu'on entend dans ces extraits, c'est que la danse se suffit à elle-même. Alex Owens, dans Flashdance, dit qu'elle n'écoute qu'elle-même, qu'elle n'attend qu'à elle-même, quand elle danse, elle ne voit pas ce qui l'environne. Et c'est exactement ce que dit Paul Valéry aussi dans son texte. Donc effectivement, il y a bien un mouvement, il y a peut-être un danser, un geste dansé à la base de toute création, mais il y a aussi un mouvement spécifique, un geste spécifique propre à la danse, qui est celui d'être autosuffisant, de n'être attentif qu'à lui-même, Michel Guérin.
Absolument, et cette remarque que fait Valéry dans cette belle conférence que vous avez citée, Philosophie de la danse, où il dit d'ailleurs aussi que la danse est une poésie générale de l'action des corps en mouvement.
Alors, on l'entendra tout à l'heure aussi. On a un autre extrait, effectivement.
C'est un texte magnifique que cette conférence de Valéry. Mais quelqu'un qui est bien placé pour parler de la danse, et puisqu'il s'agit de Martha Graham, pourrait corroborer absolument de tels propos, puisqu'elle dit dans ses mémoires de la danse que la danse, c'est avant tout la capacité d'écoute. Il faut que le corps, quand on dit le corps, ça ne veut pas dire que le corps matière, ça veut dire la personne tout entière dans son corps, soit à l'écoute. Pas seulement à l'écoute de soi, mais à l'écoute de l'environnement, à l'écoute, j'allais dire, du cosmos. Il y a une dimension cosmique dans la danse.
Et pourtant, Valéry nous dit bien que le danseur ne fait attention qu'à lui-même.
Il
n'a pas ce qui l'environne.
Oui, mais quel est ce lui-même ? C'est pas le lui-même égoïste particulier, celui qui aime les bonbons ou qui va le dimanche à Ville-d'Avray. Le lui-même, c'est n'importe quel corps, je dirais, transfiguré par l'intelligence de son mouvement et de ses mouvements les plus fondamentaux, de ses émois les plus fondamentaux. Donc, en effet, celui-même, c'est la même chose que le cosmos. Et, au fond, la danse nous inscrit dans un espace qu'elle induit en grande partie, mais qui est un espace plastique, donc induit à partir du mouvement, mais qui, en même temps, fait que la danse est en correspondance avec le cosmos. C'est ça qui me paraît le plus, peut-être le plus ancien, le plus... Tout à l'heure, j'employais le mot d'archaïsme. Je ne l'entendais pas en un sens régressif, je l'entendais en un sens très, très ancien, très, très fondateur. Il y a dans la danse quelque chose qui nous renvoie au plus lointain des religions, au plus lointain de la sexualité, au plus lointain des émois fondamentaux, presque viscéraux, presque animaux de l'homme. C'est pour ça que moi, je suis toujours très réticent quand on parle de la danse pour exprimer des sentiments. Parce que les sentiments, vous savez, c'est de la psychologie. Et la psychologie, c'est toujours littéraire, plus ou moins. C'est toujours rhétorique. L'amour, ça se déclare. La haine aussi. La danse n'est pas dans le sentiment. Elle n'est pas psychologique, la danse. Elle est ultra physique, absolument. Elle est bien trop viscérale. Il y a une ou deux, vous allez voir pourquoi je dis une ou deux, grandes émotions fondamentales dans la danse. Eros et Phobos. L'appétit, l'amour, le désir, quelques mots qu'on veuille employer pour traduire Eros. Et puis Phobos. Phobos, c'est-à-dire la peur, la crainte, la phobie. Vous savez, il y a deux mouvements dans la danse. Aller vers, ça s'appelle appetitus en latin. Hein, c'est-à-dire essayer de gagner un bien qu'on convoite. Et puis l'autre mouvement, c'est Phobos. C'est-à-dire s'écarter, s'éloigner, fiche le camp, s'en aller à toute vitesse. Et bien, il y a les deux dans la danse. Aller vers et puis s'en aller. Et ça tourne. Eh bien, moi, j'appelle ça la base phobérotique. Et c'est la base émotionnelle fondamentale de tout vivant.
Quand vous dites que la danse renvoie au plus lointain, en fait, de l'homme, on peut aussi retrouver cette dimension-là dans le fait que la danse a ceci de spécifique, le geste de la danse a ceci de spécifique, qu'elle ne sépare pas la matière à transformer de la matière une fois transformée, de l'outil. Ça, c'est véritablement, et c'est aussi en cela qu'elle est...
Elle est suffisante.
Qu'elle est autosuffisante.
Bien entendu qu'elle est autosuffisante. C'est le plus suffisant, le plus frugal, le plus économe des arts. Puisque la danse suffit à elle-même. Vous l'avez rappelé, le corps est à la fois matière et forme, matériaux et figure, mais il est aussi moyen et fin. Il est aussi instrument et accomplissement. Donc la danse n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Et c'est en quoi aussi elle est peut-être primitive, au sens que vous désigniez tout à l'heure, c'est-à-dire première, non pas en un sens de dignité idéaliste ou métaphysique au sens des systèmes anciens, mais première au sens réel, c'est-à-dire qu'un art qui n'écouterait pas ce qu'il y a dans le corps et dans la création artistique de danse, cet art-là serait bien abstrait, mais abstrait au mauvais sens du terme, il serait bien froid.
En fait, la danse ne serait peut-être telle pas l'indicateur, on va dire, de la possibilité inscrite en chacun de devenir artiste, de pouvoir, comment dire, actualiser une forme de puissance artistique, quelque chose qui... En fait, quand vous disiez tout à l'heure que le mouvement était à la fois... dès qu'il naissait, en fait, il mourait instantanément, est-ce qu'on peut voir aussi... saisir cette dimension-là virtuelle de potentialité de l'homme qu'indique la danse. Et en cela, aussi, la danse serait primitive parce qu'elle renverrait à une potentialité de l'homme.
Oui, elle renvoie à une potentialité, mais il faut bien situer ce potentiel dans une circularité, dans un tourniquet, dans un dacapo, comme Nietzsche aime dire, qui fait que la chute... Le déclin, pour prendre un mot de Nietzsche dans le Zarathoustra, le déclin est prélude à un rebond. Et ce que nous montre la danse, c'est justement constamment, et là je reviens au poème que vous avez tout à l'heure lu de Rilke, cette transformation de tout passé en pas, de toute chute en rebond. Et je crois que c'est ça qui fait la fascination que représente la danse, pas simplement pour les philosophes, mais également, tout à l'heure, vous citiez le cas de l'enfant qui va rentrer, c'est le cas de le dire, dans la danse. Et vous disiez aussi, mais ça c'était dans une conversation entre nous à parté tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsqu'on voit danser, eh bien on est entraîné. Il faudrait peu de choses pour qu'on rentre dans la danse. Il y a un pouvoir inducteur de la danse, que peut-être aussi de la musique, mais peut-être aussi du geste du plasticien quand on le voit. Je pense à Picasso, par exemple, filmé par Clouzot. Le geste artistique, lorsqu'on le voit opérer, eh bien, il suscite en nous quelque chose qui est de l'ordre d'une simulation, même si nous ne sommes pas capables d'aller beaucoup plus loin, bien entendu, que cette démangeaison de faire de la même façon. Cependant, c'est très instructif qu'il y ait, notamment dans la danse, cette puissance, cette potentialité d'induction.
Mon art est précisément un effort pour exprimer en gestes et en mouvements la vérité de mon être. Il m'a fallu de longues années pour trouver le moindre mouvement absolument vrai. Les mots ont un sens différent. Devant le public qui venait en foule à mes représentations, je n'ai jamais hésité. Je lui ai donné les impulsions les plus secrètes de mon âme. Dès le début, je n'ai fait que danser ma vie. Enfant, je dansais la joie spontanée des êtres en croissance. Adolescente, je dansais avec une joie qui se transformait en appréhension des courants obscurs et tragiques que je commençais à prévoir. Appréhension de la brutalité impitoyable de la vie et de sa marche écrasante.
Le crâne, c'est ça.
On vient pour la plupart de la zone, du ghetto comme on dit. On n'a pas tiré le gros lot, c'est clair. Alors pour oublier, on se met ensemble et on danse. These chumps underestimate my style. Oh my god, I think I'ma have to act wild. Ici, après l'école, il n'y a rien de prévu, c'est mort, si tu veux faire autre chose que du football. Parce que c'est pratiquement le seul truc que tu peux faire dans les quartiers, il y a toujours une équipe de football. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a créé? C'est un groupe de jeunes, on s'est tous réunis et on a inventé cette danse.
J'ai grandi par ici, entre Menlo et Normandie. J'ai jamais quitté le coin. C'est plutôt galère pour les jeunes comme moi, c'est clair. Ok, on a l'école, c'est sûr, on va à l'école, mais t'as en plus les bandes. Ici, il y a des couleurs que tu sais même pas te porter, c'est chaud. Alors on cherchait un moyen de s'exprimer, parfois, non, plutôt en général, ce moyen, c'est la musique. On se met du son à fond, ça nous inspire des trucs, ça fuse dans la tête, et souvent, le résultat, ben, c'est la danse.
Quand une session de crumping est en route, ben moi, je peux t'affirmer qu'il y aura un max de monde qui va tout zapper pour être sur le coup. Ils seront de la partie, parce que c'est comme ça, c'est clair, il y a une force là-dedans, tous ces gens pensent crumping, il y a un état d'esprit, une énergie, c'est clair. En fait, tu vois, il y a pas mal de gens qui disent « Eh, t'as vu ? Ah, c'est juste une bande de petits voyous !» Juste des mecs du ghetto, de la racaille, des sauvages. Non. Non, non, nous, on est juste des opprimés. Come on, little mama. Take it to him, would you do me that honor? All kids get influenced by this. Movement vigorous, moving more than they fist. But we in the streets, it's a family affair. Act a clown, go wild, no, we don't care. Shake it, shake it, shake it till your body can't take it. You can make it complicated or maybe just keep the bass. Block party at the front. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h27, c'est le deuxième temps de notre semaine consacrée à la danse. Et aujourd'hui, nous parlons du geste de la danse, ce geste dansé que l'on retrouve dans toute création, en compagnie du philosophe et professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille, Michel Guérin, auteur notamment d'une philosophie du geste parue aux éditions Actes Sud en 2011, ainsi que d'un danser de l'art, article paru dans le numéro 24 de la très belle revue annuelle La Part de l'œil, consacrée à ce qui fait danse. Track from way back now, sweeters in the front, put the bass in the back. Yep. Fade to black, my eyes open to the white. Nobody know it's tight, no violence, it ain't a fight, yep. It's a dance craze. Michel Guérin, j'ai lu un extrait de Ma vie, c'est de ma vie, de la vie d'Isadora Duncan, qui explique que tout son art a consisté à tenter d'exprimer absolument sa vie, la conscience, la vérité de son être, dit-elle. Puis on a entendu un extrait de Rise, c'est un documentaire de David Lachapelle qui date de 2005, documentaire sur le crump, Cette danse apparue dans les quartiers pauvres de Los Angeles dans les années 90. Une danse qui représente la vie et toute sa jouissance. Et dans les deux cas, ce qu'on a entendu, effectivement, et ça faisait lien avec ce que vous disiez avant sur l'émotion fondamentale qu'exprime la danse en fait n'exprime rien si ce n'est une émotion fondamentale qui est celle de l'appétit ou de la peur de la vie.
Oui, et il ne faudrait pas pousser les choses beaucoup pour arriver au tragique, à la condition de ne pas se tromper sur la définition du tragique. Le tragique est la plupart du temps référé à la souffrance. Bien sûr, il y a de la souffrance dans le tragique. Le nier, ce serait aller beaucoup trop loin dans le paradoxe. Mais l'émotion dominante dans le tragique, comme Nietzsche, peut-être mieux que tout autre penseur l'a vu, c'est la joie. Parce que la joie, dit-il, je cite le chant d'ivresse du dernier livre du Zarathoustra, la joie est plus profonde que la douleur. La joie est plus profonde que la douleur parce que la joie, c'est l'affirmation de l'existence, jusque, y compris, dans et par la douleur. La douleur comme révélateur de l'exister aussi. Donc, oui, je pense que la danse ne prend sens qu'avec cette référence à ces émois fondamentaux qui sont, si on veut se situer du côté d'une explication plutôt en termes, je dirais, de généalogie animale, l'appétit et la peur, hein, Eros, Phobos. Mais si on se situe maintenant sur le plan, si on transpose ces affects sur un plan plus métaphysique, on retrouve la joie et la tristesse, ou la haine. Mais la tristesse, c'est plus fort encore que la haine, parce que la tristesse, c'est le sentiment du non-être, c'est le sentiment du désastre, c'est le sentiment que l'être n'est pas sous un bon astre, alors que la joie, c'est au contraire le sentiment de l'être par excellence. C'est l'affect de l'être par excellence. Et je crois que dans la danse, si on va tout à fait au profond de la métaphysique de la danse, eh bien je crois qu'il faut dire avec Nietzsche effectivement que la joie est plus profonde que la douleur, la joie est plus profonde que la tristesse.
Mais il y a aussi une autre... La danse n'exprime rien, effectivement. On l'a vu, elle se différencie...
Aucun sentiment.
Aucun sentiment.
Psychologique.
Aucun sentiment psychologique, elle se différencie du geste technique dans le sens où effectivement elle ne tend pas vers un but extérieur, elle se suffit à elle-même, mais comment, du coup, qu'est-ce qui reste de la danse finalement? Si elle est un mouvement qui naît puis meurt instantanément, si elle n'a pas de but qui prend la forme d'un objet incarné, concret, si le corps du danseur ne se différencie pas de ce qu'il dit, enfin comment dire, de la... Si le marché du danseur dont vous parliez tout à l'heure avec les deux corps du danseur ne se différencie pas du danser invisible, qu'est-ce qui reste de la danse? Comment on saisit la danse s'il n'y a rien finalement qui en reste?
Mais en tout cas, aucun objet, si on entend par objet un objet matériel. Alors, bien sûr, il y a des créations dans le domaine de la danse et il y a même, on le sait, des notations, une notation, la fameuse notation de Rudolf Laband, lequel Laband, d'ailleurs, puisque vous parlez de but, disait bien qu'il n'y avait sans doute que deux grands gestes, faire et danser. Faire, qui est un geste qui est avide de but, on ne fait rien pour rien, on fait quelque chose pour atteindre un but. Et danser, qui est au contraire un geste désintéressé, comme dirait Kant, un geste gracieux, un geste gratuit, un geste pour rien. Mais pour rien, ça ne veut pas dire un geste nul. C'est au contraire un geste qui est éminemment libre, si tant est que le mot de liberté convienne. Moi, je préférerais peut-être le terme d'indépendance.
C'est le corps qui
exulte dans la danse.
C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans l'extrait du documentaire de David Lachapelle, Rise. C'est les jeunes disent, enfin le jeune qui témoigne dit, nous on dansait parce qu'on ne faisait rien d'autre finalement. C'est ça, on danse par ennui, mais on ne danse pas pour tromper l'ennui. En fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. On ne danse pas par utilité. On danse de manière gratuite.
On danse de manière gratuite et on danse. On retrouve décidément Valérie. On danse pour tout simplement rendre actuel ce que Valérie appelle le pur ennui de vivre. Et le pur ennui de vivre, ce n'est pas exactement la même chose que le sentiment de l'ennui profond, de ces longues journées où rien ne se passe, où on a envie de rien faire. Ça, c'est l'ennui, un ennui désespérant, un ennui gris. Alors que le pur ennui de vivre, c'est tout à coup cette sorte de ce sentiment de se trouver devant, devant l'ouvert. Tout est possible, rien n'est nécessaire. L'instant est là, à moi d'en faire ce que je peux ou ce que je veux. Mais il y a une sorte de détachement extraordinaire dans cet ennui. Et c'est le lieu de la danse.
On revient aussi à la potentialité que désigne la danse.
Oui,
il y a une sorte d'indécidable. La danse désigne ce moment où rien n'est encore fait.
Oui. Et elle dessine aussi, je crois, le caractère paradoxalement toujours a posteriori de l'intention artistique. Je crois que c'est ça qui fait la particularité de la création artistique, c'est que l'intention n'est pas dans la conscience avant l'exécution. Et d'ailleurs, comme le dit de manière très, très élégante et en même temps amusante Alain, il dit que si les artistes réalisaient toute leur intention, ce ne seraient pas des artistes, ce seraient des ingénieurs. Car ce qui fait précisément le propre de la création, c'est que l'intention s'enrichit en cours de route. Elle ne cesse de faire boule de neige avec elle-même. C'est la preuve qu'elle n'est pas d'abord, qu'elle n'est pas avant, qu'elle n'est pas a priori. Et quand je dis qu'elle est a posteriori, c'est naturellement une exagération, une hyperbole, mais c'est bien pour montrer le caractère de processuel de la création. C'est en cela aussi qu'il y a une danse qui s'induit toujours, parce qu'il y a une recherche de l'intention, il y a une improvisation, mais une improvisation gouvernée. Décidément, on ne rencontre que des paradoxes. C'est ça qui est extraordinaire, qui est fascinant dans la danse. C'est que c'est un bouquet, c'est un faisceau de paradoxes.
Donc parmi ces paradoxes-là, vous dites qu'elle est à la fois sauvage et chorégraphique, en même temps physique et abstraite, et en même temps insignifiante et transfiguratrice.
Oui.
Comment on peut entendre cette transfiguration de la danse ?
Eh bien, c'est toute la différence qu'il faut faire entre la figure et la représentation. La danse ne représente rien au sens allégorique du terme, c'est-à-dire que il n'y a pas tel pas ou tel port ou tel mouvement de la tête ou du bras ou des doigts qui représenterait ceci ou cela. Évidemment, cela ne peut pas exister ainsi. Mais pour autant, comme le montre aussi Valérie, la danse est pour la pensée une sorte de livre ouvert des figures de la pensée, des métaphores de la pensée, des images que la pensée rencontre elle-même sur son chemin. Parce que tout mouvement, finalement, est la transposition d'un autre. Donc il y a un sens de la danse qui est irréductible à des significations analytiques. Je crois que la danse n'est pas faite pour raconter des histoires. Alors bien entendu,
elle n'est pas narrative.
Elle n'est pas narrative, me semble-t-il. En tout cas, elle n'est pas faite pour raconter des histoires. On trouvera bien entendu toujours un chorégraphe ou un auteur de ballet qui dira « mais moi, je raconte des histoires ». Il a bien le droit, bien entendu, et peut-être a-t-il raison. Mais la manière dont je vois personnellement la danse veut que celle-ci n'ait pas grand-chose à voir avec la narration.
La danse aurait plus à voir, vous l'avez dit, et vous avez parlé de Paul Valéry. On va entendre un extrait de sa philosophie de la danse, lu par Jean-Louis Jacopin. Mais effectivement, la danse n'aurait pas grand-chose à voir avec la narration, mais elle serait plutôt là pour nous montrer la manière dont la pensée procède.
La danse vivante, loin d'être un futile divertissement, loin d'être une spécialité qui se borne à la production de quelques spectacles, à l'amusement des yeux qui le considèrent ou des corps qui s'y livrent, est tout simplement une poésie générale de l'action des êtres vivants. Elle isole et développe les caractères essentiels de cette action, la détache, la déploie, et fait du corps qu'elle possède un objet dont les transformations, la succession des aspects, la recherche des limites des puissances instantanées de l'être, font nécessairement songer à la fonction que le poète donne à son esprit, aux difficultés qu'il lui propose, aux métamorphoses qu'il en obtient, aux écarts qu'il en sollicite et qu'il éloigne parfois excessivement, du sol, de la raison, de la notion moyenne et de la logique du sens commun. Qu'est-ce qu'une métaphore, si ce n'est une sorte de pirouette de l'idée dont on rapproche les diverses images ou les divers noms ? Et que sont toutes ces figures dont nous usons, tous ces moyens comme les rimes, les inversions, les antithèses, si ce ne sont des usages de toutes les possibilités du langage qui nous détachent du monde pratique pour nous former, nous aussi, notre univers particulier, lieu privilégié de la danse spirituelle.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Qui est-ce ?
C'est Dutroux, un ami de Pépé.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Rentier. Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement ?
Nous ?
Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Un jour ici, un jour ailleurs, nous vivons libres et sans attache, lutins farfelus et potaches, courant de bonheur en bonheur, préférons...
Nous autres philosophes avons d'autres besoins, une autre croissance, une autre digestion. Il n'y a pas de formule pour définir la quantité de nourriture qu'il faut à un esprit. Ce n'est pas de la graisse, mais une plus grande souplesse et une plus grande vigueur que le bon danseur demande à sa nourriture. Et je ne saurais pas ce que l'esprit d'un philosophe pourrait désirer de meilleur que d'être un bon danseur. Car la danse est son idéal, son art particulier et finalement aussi sa seule piété, son culte.
La sieste dans le foin coupé, l'amour fou au milieu des blés.
Et le vent frais sur le visage.
Michel Guérin, je viens de lire un extrait du Gai Savoir de Nietzsche. C'est le paragraphe 381 sur la question de la compréhension. Et il y dit que la danse est l'idéal du philosophe. Le philosophe n'a pas besoin de graisse finalement, il a besoin de souplesse. Et c'est ce qu'on entend aussi dans le texte de Paul Valéry finalement. C'est que quand on a dit tout à l'heure que la danse était exemplaire pour les autres arts, on peut aussi dire quelle est la métaphore du mouvement même de la pensée.
En effet, et Dieu sait que, en particulier pour Nietzsche, mais pour Valéry aussi évidemment, Dieu sait que la danse est exemplaire et même paradigmatique. Parce que la danse, c'est deux choses essentiellement pour Nietzsche. C'est bien sûr la souplesse, mais c'est aussi la force. Et la souplesse ne va pas sans la force. D'ailleurs, il y a deux textes qui se renvoient l'un l'autre dans l'œuvre de Nietzsche, l'un qui est tiré du Gai Savoir, dont vous venez de lire un passage, et puis il y a également un texte en Humain trop humain, où le terme de souplesse, ce qu'on traduit en français par souplesse, c'est pas le même mot en allemand. Un des mots, c'est, peu importe le mot allemand, mais un des mots désigne plutôt ce que j'appellerais une sorte d'habileté négociatrice. C'est-à-dire qu'il faut être fort.
Une sorte d'adresse.
Une sorte d'adresse, voilà, une sorte de virtuosité. Et l'autre mot, mais ils sont dans les deux cas traduits, je le répète, en français par souplesse, l'autre mot, disons-le, c'est Biegsamkeit. Vous avez biegen, qui veut dire ployer, qui veut dire fléchir, qui veut dire courber. Donc ce que Nietzsche, finalement, voit aussi dans la danse, c'est l'amorce de l'éternel retour du même. C'est la courbe, c'est le cycle. C'est pas simplement, c'est le regain, c'est le rebond, c'est le retour. C'est le retour. La danse est tour et retour.
Et la pensée également. C'est-à-dire que la pensée, quand on parle de Nietzsche, on voit tout de suite aussi l'idée que la danse puisse représenter, pardon pour ce terme, représenter, mais puisse comment dire, signifier, montrer le renversement des valeurs dans la civilisation, mais aussi les tours et retours de la pensée elle-même. Chez Nietzsche, il y a à la fois la pensée de l'éternel retour, mais aussi des tournures de pensée qui, dans la contradiction sans cesse.
Bien sûr. Et c'est en quoi la danse est fascinante. Et pourquoi est-elle fascinante ? Parce que, et là il faut un petit peu entrer dans un débat, je dirais, assez métaphysique. Je crois qu'il faut, il faut pas tenir des propos lénifiants sur la danse en disant, voilà, naguère, le dualisme métaphysique ravageait tout, était dominateur, et donc il y avait le corps et l'esprit. Aujourd'hui c'est bien, on est dans le monisme. Tout le monde parle du corps, etc., etc. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est, en réalité, la danse ne nous oblige à penser ni en termes de dualisme métaphysique, ni en termes de monisme. Parce que dire que le corps pense, ça veut dire quelque chose dans une certaine limite.
Mais ou dire
limite...
que la pensée danse, ça a des limites.
Dire que la pensée danse, c'est aussi une métaphore ou une image. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut plutôt combiner... le duel est l'un. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant dans la danse pour le philosophe. C'est que rien n'est plus opposé à la pensée philosophique que la danse. Il faut quand même le dire.
Alors,
c'est l'extrême, c'est l'extrême polaire. C'est l'opposé, il y a une polarité, d'où la fascination. Et rien n'est plus semblable à la pensée que le corps en mouvement, et rien n'est plus contraire. Là, je suis en train de parodier ou de pasticher une fameuse pensée de Pascal sur la cupidité et la charité, qui sont les deux états du corps. La cupiditas et la caritas, rien n'est si semblable à la cupidité que la charité, et rien n'est si contraire. C'est-à-dire que ce qui est, c'est ça qui fascine le philosophe aujourd'hui. Alors que la danse naguère était négligée, ou mésestimée, ou sous-estimée, c'est qu'aujourd'hui il y a une fascination du philosophe par rapport à la danse, parce qu'il voit bien que la danse est très proche de la préoccupation du penseur, mais très proche depuis un extrême lointain. Rien n'est si proche, rien n'est si lointain. Et c'est vrai que les figures de la danse peuvent, chez Valéry par exemple, évoquer, traduire, transposer les figures de la pensée. Mais ce ne sont pas les mêmes claviers, ce ne sont pas les mêmes langues, ce sont des langues qui peuvent se traduire, qui peuvent s'évoquer, qui peuvent même faire penser l'une à l'autre. Mais il n'y a pas de représentation exacte de l'une dans l'autre, il n'y a pas d'allégorie, il faut oublier l'allégorie. Ce qui est intéressant, c'est au contraire cette relation spéculaire, cette relation polaire et spéculaire des deux, depuis leurs extrêmes. Alors, allons encore plus loin, si vous le permettez.
Allez-y, je vous en prie.
Faisons encore un peu plus de métaphysique. Ce qui est là-dedans, en quelque sorte, en cause, c'est ce que la pensée contemporaine appelle la finitude métaphysique. C'est-à-dire qu'au bout de la pensée, il y a le corps. Le corps termine la pensée. Mais en même temps, dans la pensée, il y a quelque chose de corporel. Je m'explique. Je veux dire que ce qui est irréductible dans la pensée, sinon on passerait tous notre temps uniquement sur Internet. Ce qui est irréductible, c'est que c'est la pensée d'un maître, c'est que la pensée se montre, c'est que la pensée s'enseigne. Et la partie pédagogique, la partie socratique, la partie monstrueuse, montrante, monstrum, celui qui montre, c'est le maître de la pensée, c'est son corps. Une pensée enseigne par sa modalité gestuelle, par sa corporalité. Ce qu'on retient d'un maître qu'on a eu naguère, c'est son corps, c'est sa voix, c'est ses intonations, c'est ses inflexions. Toute chose que la danse dit, bien mieux que le discours abstrait. Mais en même temps, qui sont, à mon avis, ce qui fait la singularité la plus précieuse de toute grande pensée.
Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant
Johanna, Johanna, tu sais danser léger, léger. Johanna, 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 tu sais danser léger, léger.
Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de banane. Et pourtant
Johanna, 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 tu sais danser léger, léger. Johanna, 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 tu sais danser léger, léger.
La danse est faite de paradoxes, Michel Guérin, comme Johanna qui danse léger, léger, alors qu'elle au régime banane. Merci beaucoup en tout cas Michel Guérin d'avoir participé à cette émission. J'étais ravie de discuter avec vous, de vous et sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Je rappelle que l'on peut lire votre philosophie du geste, paru aux éditions Actes Sud en 2011, ainsi que le très beau numéro de la revue annuelle La Part de l'œil. C'est le numéro 24 qui est paru en 2009, consacré à ce qui fait danse, et vous y avez participé en écrivant un article qui s'appelle D'un danser de l'art. Et puis je signale aussi votre origine de la peinture sur Rembrandt, Cézanne et l'Immémorial qui est paru chez Encre Marine. C'est la fin des nouveaux chemins, mais nous nous retrouvons demain pour continuer notre danse. En compagnie demain d'Anne Boissière, avec qui nous parlerons de l'espace et du rythme du mouvement. Et si d'ici demain vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, pendant un an. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.